Hey, how you doing?
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il a pas de prénom.
English, motherfucker, do you speak it?
Anyone talking to me? King Kong ain't got shit on me!
The Lannisters send their regards.
Girl, you can't get no infection in your booty hole. It's a booty hole.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Alrighty then.
Oh, what a day! What a lovely day!
Salut à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de podcast Accord Ciné. Après un épisode top série, voici l'épisode spécial top film 2019. Le meilleur et ce qu'il fallait retenir de l'année, d'après nous. Comme beaucoup de cinéphiles, on adore faire des tops. On adore en lire, on adore en découvrir. Parce que parler des films qui nous ont plu, des films qui nous ont marqué cette année, c'est hyper révélateur d'une certaine idée de cinéma qu'on a envie de défendre et auquel on est réceptif. Alors, avec moi, comme toujours, mes deux acolytes, Célina et Famo, bonsoir.
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 On n'a pas fait un top rédactionnel parce que nous avons tous des goûts totalement différents et que je suis le seul à aller régulièrement au cinéma. Voilà, en 2020, on ne prend plus de camp. Voilà, donc on a préféré garder nos tops individuels à chacun et nous allons vous les décliner progressivement de la 10e place à la 1ère place. Et à la fin, nous allons tous ensemble, de manière consensuelle, choisir le film de l'année. Nous allons appeler ça le Accrociné. D'or de 2019. C'est bon. Alors, rapidement, nous allons attaquer les tops. Alors, bon, avant de commencer les tops, qu'est-ce que vous avez pensé de cette cuvée 2019? Cuvée cinématographique.
Pour moi, c'était pas la meilleure des cuvées. J'ai réfléchi à ma fin, j'ai beaucoup de films. Après, je n'ai pas autant suivi de films que Sam, je l'admets. Mais voilà, j'ai pas été souvent incité pour aller au cinéma. J'ai eu quelques dates où vraiment je me suis dit, là, je vais y aller. Donc, pour moi, c'était pas la meilleure des cuvées, et du coup, je pense que même au niveau des palmarès, des nominations, c'est très ouvert. Ça peut aller à beaucoup de. C'était pas une très bonne année.
D'accord.
Globalement, les films, il y a beaucoup de remakes cette année. C'est signe quand même qu'une certaine faiblesse scénaristique dans le cinéma.
Ok,
c'est dommage.
Ben, moi, pareil, hein, c'était une année beaucoup plus série, hein, un peu comme Célina. Et de très bonnes séries.
Ouais, ouais, paradoxalement.
Et de très bons films que vous n'avez pas vus.
Oui, mais.
Peut-être. Oui, peut-être. Non, mais voilà, Non, j'ai vu pas mal de bons films, moi. Après, c'est là, on notait sur les films de 2019, et moi, en 2019, j'ai vu plein de films qui n'étaient pas de 2019, qui étaient très bons aussi. Donc, voilà. C'est... Ouais. Je ne regarde pas toujours le film de l'année, quoi.
Ouais. Voilà. C'est ça. Donc, nous allons commencer avec vos numéros 10, Célina.
Ben moi, en numéro 10, j'ai le deuxième. Us, de Jordan Peele.
Ah, super, j'ai
fait
ça.
Ok.
Ouais, et on se demandait si. J'avais craint que Get Out soit une sorte de one-shot sa part, sans le sous-estimer ni rien. Mais Us a vraiment confirmé dans sa capacité à traiter le suspense, le thriller, avec le personnage principal d'une famille de. Qui va l'identifier un peu copié. Et là c'est le film est très schizophrène, ça fout les jetons. Moi je suis pas trop fan, je suis plus trop fan des films d'horreur, des films de thriller comme ça. Mais franchement j'ai été secoué, j'ai vraiment été rassuré par le talent de Jordan Peele dans ce film. Donc moi c'est mon numéro 10 cette année.
D'accord.
Ok. Vraiment.
Moi numéro 10, alors un film qui est pas du tout dans mon style de film d'habitude, c'est Alita Battle Angel.
Okay.
Après, je connaissais pas l'œuvre de base ni rien, et donc j'ai découvert et j'ai trouvé la technique géniale. J'ai beaucoup regardé les making of et tout, donc j'ai trouvé la technique géniale, l'histoire pas mal, j'aime bien, j'ai bien aimé. Voilà, c'est mon numéro 10.
D'accord. Alors moi, mon numéro 10, c'est An Elephant Sitting Still.
Alors ça, on a
pas vu. Oui, en fait, je pense pas que beaucoup de gens le connaissent, c'est un film chinois.
Ok.
Et son réalisateur s'est suicidé juste après le montage du film. C'est assez glauque, franchement.
Après le montage?
Oui, juste après le montage. Disons que, en fait, c'est plutôt le film le plus dépressif de l'année. Okay. Le film dure 3 heures et quelques.
Ouais.
Voilà, donc c'est assez sombre. On suit l'histoire de 4 personnages dans une Chine grisâtre. Tu vois, 4 personnages qui souffrent dans leur vie. Tu vois, le quotidien n'est pas toujours facile. Donc, eux tous, ils rêvent d'une vie meilleure. Tu vois, ils veulent aller dans une ville qu'ils ne connaissent pas, mais ils entendent que dans cette ville-là, il y a un éléphant assis à attendre. Personne ne sait ce qu'il attend, mais il attend.
Okay.
D'où le titre, An Elephant Sitting Still.
Okay.
Et tous les 4 personnages-là qui ne se connaissent pas, mais quand même, durant ces 4 jours, durant le film, ils vont se rencontrer et tout. En fait, le film, c'est 3 heures de temps là. C'est un seul jour.
Ok.
Dans le film.
D'accord.
Voilà, donc eux tous, ils essayent de s'échapper. Ils rêvent d'une vie meilleure sans pour autant être sûr qu'ils l'auront. Tu vois, en fait, c'est un peu comme une allégorie, tu vois, à un combat que l'on s'est perdu d'avance et qu'on mène quand même malgré tout. Mm-hmm. Voilà, donc c'est un peu, c'est plein d'espoir, mm-hmm. même si c'est un peu nihiliste aussi, il faut le dire. C'est poétique, c'est très bien réalisé, c'est magnifique. Franchement, moi, c'est un film qui m'a bouleversé et que j'ai adoré. Okay. Voilà, c'est un peu dur, mais quand même, je le conseille.
Ok, c'est bon.
Voilà. Alors, Célina, numéro 9.
Alors, numéro 9, c'est une découverte tardive, mais que moi, je ne peux pas ignorer parce que c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Clint Eastwood, le père Richard Gere, qui raconte l'histoire vraie de ce vigile qui est dans les JO d'Atlanta 96. Après avoir découvert un colis suspect, déclaré comme bombe sous une estrade, a fait sonner l'alerte pour évacuer les spectateurs. Mais après, on se rend compte que finalement, ce n'était pas une bombe. Les gens ont commencé petit à petit à l'accuser, lui, d'être une sorte de terroriste, ou en tout cas quelqu'un qui a fait, qui a monté la fête de toutes pièces. Ouais. Et du coup, il a subi un véritable abattage médiatique de la part de la. Et un abattage aussi de la part des. Un harcèlement de la part de la police, FBI. Et donc, les médias, ils sont tombés dessus, vraiment à bras raccourcis. Mm-hmm. Et il s'est retrouvé à un moment seul au milieu de la tempête, avant qu'il puisse trouver un avocat qui le défend, disant mais jusqu'à présent, vous me dites tout n'importe quoi, mais il n'y a rien qui prouve. Au contraire, on ne voit pas pourquoi vous. Et c'est symptomatique. Donc, la situation où se déroule en 96, c'est symptomatique d'une société qui parvient facilement à condamner quelqu'un sans avoir aucune preuve. Et moyen de preuve, plus la condamnation est facile. Il suffit de dire que ben non, ouais, mais il a appelé, ouais, mais est-ce que c'est pas lui? Et bim. Avant qu'on ait le temps de dire ben non, le bruit a déjà fait le tour. Il se dit qu'il arrive. Au moins, le gars, il est là. C'est vraiment le vigile de tous les jours qu'on croise épais, qui est là, qui fait son boulot, qui n'est pas méchant pour un sou, qui est simple, c'est le genre à faire être vigile pendant 40 ans s'il le faut. Et là, il se retrouve au centre de l'attention. La seule fois qu'il a voulu bien faire, il l'a bien fait et ça le retourne dessus. Et il ne comprend pas très vite pourquoi ça lui arrive, mais quand même, il parvient à se battre. Et pour la belle histoire, quand même, malheureusement, il meurt peut-être 10 ans après. Mais avant de mourir, quand même, la ville d'Atlanta lui a officiellement présenté ses excuses pour ce qu'il a subi. De la part des médias, de la part de la société même. Mais quand même, c'est pour montrer que. C'est un film qui montre quand même la facilité de détruire une réputation sur des on-dit, sur des trucs. Plus on a du mal à se défendre en plus, parce qu'on sait pas comment se défendre quand on a raison. On a du mal à se défendre quand on a raison, plus on a l'air coupable. Et ça aussi, c'est un vrai paradoxe de notre époque. Accusation de viol, on dit si je ne l'ai pas fait. Si on dit je ne l'ai pas fait, on dit
ouais.
Si on dit que je l'ai fait, ben on est. Mais si on dit, plus on dit je ne l'ai pas fait, plus on a l'air coupable.
Vraiment, donc, c'est, un film de Clint Eastwood.
Clint Eastwood,
qui a quel âge maintenant? 115 ans. Si. 120 ans.
Ouais,
franchement, il est vieux.
Au passage, ouais, qui joue encore le vieux homme, le The Old Man and the Gun.
Il va nous faire une carrière à la Oliveira. Oliveira, le portugais.
Oui. Voilà. C'est l'un de mon dernier géant.
Ouais.
Il faut l'apprécier tant qu'il est là. Quoi.
Il était là au Western, lui.
Oui, certainement.
Il est depuis le temps de Western.
C'est ça.
Lui et Kirk Douglas.
Ah, c'est bien qu'il fasse toujours de bons films. J'ai pas encore vu le film, mais je suis impatient de le voir. Femme.
Pour le 9 ?
Oui,
le 9. Alors, Green Book, c'est mon numéro 9.
Ok.
J'ai trouvé très beau, très. J'aime bien les couleurs, tout ça, et puis voilà, c'est un biopic, même si ça a été un peu édulcoré, je pense. Mm-hmm. J'adore les biopics, c'est mon genre de film préféré, je pense, ou deuxième peut-être. Donc ouais, j'ai bien aimé l'histoire, où est-ce que ça se situe un petit peu, et puis je sais plus, on en avait parlé un jour, et un de vous deux avait dit que le fait qu'on voit l'histoire par le prisme du chauffeur blanc, c'est peut-être un petit peu dérangeant, mais moi je trouve que justement c'était intéressant. Que je sais pas, je trouve que c'était intéressant que ce soit de son point de vue qu'on le voit, parce que c'est là qu'il y a plus quelque chose, je sais pas comment dire, c'est que tout son regard change à cet homme au fur et à mesure, parce qu'à la base il est un peu crétin, il est limite un peu raciste, il est raciste, oui,
c'est ça.
Il est raciste et voilà, et il commence à changer, et à la fin c'est lui qui se bat pour le gars et tout, et je sais pas, j'ai trouvé ça un beau film, voilà. Bon, je sais que c'est un peu 2018-2019, mais bon, moi je vais...
Oui, oui, en fait, c'est sorti en France en 2019. Voilà. Voilà, donc nous, bon, vous l'avez vu en 2019, moi je l'ai vu en 2018.
Voilà, donc j'ai bien aimé.
Voilà, donc numéro 9 pour moi, c'est, bon, pour là, je triche un peu, parce que j'ai deux films ex aequo,
ouais.
je pouvais pas choisir, il fallait que je mette les deux. Donc il y a Les Misérables de Lightly, voilà, et The Farewell de Lulu Wang.
Je croyais que t'allais dire Atlantique.
Non, non, The Farewell de Lulu Wang,
ouais.
Film que j'ai beaucoup aimé,
ouais.
Les Misérables, on en a parlé dans l'épisode 5, voilà, on en a dit tout le bien. C'est un bon film, c'est percutant, c'est de cinéma fort, voilà, un film de mise en scène, très 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 bon. Voilà, et The Farewell de Lulu Wang, c'est franchement un bijou que j'ai eu la chance de voir deux fois cette année. Bon, ça ne m'arrive pas si souvent de voir un film deux fois son année de sortie, mais ça m'est arrivé avec... bon, en fait, cette année, il y a beaucoup de films que j'ai revus deux fois cette année, voilà, bizarrement. Mais The Farewell, c'est génial, c'est touchant, c'est bien fait. Et c'est pas le genre de film bouleversant en fait, parce que on sent que la réalisatrice évite de plonger dans le larmoyant, voilà, dans le pathos et tout cela, voilà, ça, et pourtant c'est son histoire à elle, tu vois, c'est une histoire vraie. Ça raconte une jeune femme d'origine chinoise qui vit aux États-Unis et tout, à qui ses parents apprennent que sa grand-mère a le cancer à une stade très avancée, donc elle va peut-être bientôt mourir. Voilà, donc toute la famille décide d'aller la voir, mais sous prétexte qu'un des cousins de la fille va se marier, tu vois, donc ils utilisent ce mariage comme prétexte pour tous aller la voir, tu vois, mais ils ne veulent rien lui dire.
Elle ne sait pas, okay.
Ils ne veulent pas, parce qu'en fait, en Chine, il y a une tradition qui veut que personnes âgées qui souffrent de ce cancer, qu'on ne dise rien, parce qu'on dit que si on leur révèle le truc, ils vont mourir, mais pas du cancer, mais du stress.
Ok, oui, oui, ok. Voilà.
Donc c'est pour cela, c'est une tradition, tout le monde connaît ça.
D'accord.
Donc il lui cache ça, et la fille est là avec sa grand-mère, elle essaie de vivre avec, de passer du temps avec elle, tu vois, mais elle est hyper triste, et ça se comprend, tu vois, même la grand-mère la sent un peu triste pour le moment, mais elle ne dit rien, et cette grand-mère est une tour de force. L'actrice est géniale, Zhou Shujin, elle est géniale, elle mérite l'Oscar, et franchement, c'est une personne vivante, elle joue très bien. Elle est géniale. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché et voilà, qui mérite d'être connu. Je pense que ça sort en janvier ici, en France.
Okay.
Voilà, en janvier. Donc, je pense que les gens commencent à le voir. Et le titre français, c'est L'Adieu.
L'Adieu, ouais, c'est ce que j'allais dire.
Voilà, c'est ça. Donc, un beau film. Alors, c'est non. Numéro 7.
Numéro 9. Numéro 8.
Numéro 8, oui, plutôt.
The Farewell.
Okay.
Pour tout ce que Sanya dit, que je ne répéterai pas, franchement, découverte, confirmation de Awkwafina, un joli film sur l'économie familiale, la manière d'aimer quelqu'un tout en lui cachant les choses qui sont importantes, c'est une très belle histoire. Tous ceux qui ont des rapports un peu particuliers avec le grand-mère aussi vont se retrouver.
Surtout.
C'est pas toujours le troisième âge, c'est quelque chose que... On pense que c'est pas aussi douloureux quand on est sur le point de les perdre que si on perd un parent, mais... Ils servent de repères des fois dans nos vies. Quand on a des problèmes, quand on se demande, ils ont toujours des réponses. Que papa et maman ne peuvent pas dire, tout vous dit, ah ben tu sais, ben, c'est comme ça. Parce que c'est... Et donc quand ils sont là et quand les pères, quand on est sur le point de les perdre, c'est jamais facile à gérer. Surtout quand on a la chance de les connaître. Surtout les grands-mères. Ils survivent toujours plus longtemps que les grands-pères.
Toujours.
Oui,
toujours. Ça, femmes, c'est. ça, c'est donc quand ils sont là, et puis elles nous aiment de manière inconditionnellement. Qu'on fasse, c'est jamais mauvais pour elle. Donc justement, oui. Là, raconte, c'est cet adieu qui dure, qui est difficile à gérer, que chacun gère à sa façon. Et c'est pas facile à regarder, et c'est pas facile pour l'actrice principale, qui elle aussi essaie de gérer ça. Et donc, c'est un joli film à voir, c'est vraiment un joli film.
Merci de regarder, c'est bon, bienvenue.
Femme.
Moi, numéro 8, j'ai mis Glass.
Ok, de chez Amala.
Ouais. Je me suis forcée à le regarder parce que bah là pour le top hein. Parce que je savais qu'il allait être dans mon top en fait, mais en fait j'avais pas vu celui du le gars qui a 15 000 personnalités là, comment ça s'appelle, Split.
Ah, Split, t'as
j'avais
Split.
Pas vu,
ok,
et je voulais voir les autres films avant de voir celui-là,
d'accord,
et donc voilà, j'ai fini par regarder et ouais, je le trouve super. Je trouve qu'ils jouent hyper bien,
trop bien
tous.
Trop bien.
C'est génial. Voilà, voilà.
Surtout la fin.
Ouais. Comme tu dis, moi j'arrive pas à parler des films que j'aime.
Que j'aime
bien à parler des films que j'aime pas.
Pareil.
Shyamalan, il est très fort dans ce genre de sujet là, bah, c'est ses sujets quoi. Mm-hmm. Il est très bon, ouais.
Ok, donc moi mon numéro 8 c'est Uncut Gems. Pas beaucoup plus.
J'en ai entendu parler.
Voilà, c'est des frères Safdie.
Ouais.
Voilà.
Mais j'ai pas vu.
Ah ouais?
Non.
En fait, je pense que ça sort en France. Je pense que ça sort quand en France? La fin de ce mois, mois de janvier, je pense. Ouais. Ça, voilà. Mais c'est sorti aux États-Unis.
Okay.
Moi, je l'ai vu en décembre. Hein. Peut-être c'est, je pense que c'est le dernier film que j'ai vu de l'année 2019.
Okay.
Ah, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Franchement, c'est brillant. C'est un peu un mélange de Scorsese et Robert Altman. Tu vois? Okay. Oui, assez bizarre, mais franchement noir, intéressant. Noir un peu, mais très bien mis en scène.
Okay.
Voilà. En fait, c'est interprété par l'autre là, comment il s'appelle? Adam Sandler.
Ok.
Voilà, que tout le monde connaît.
Ok.
Voilà, et bon, qu'on ne présente plus, mais quand même qui aime, dire entre deux bouses un peu,
rappeler aux gens que... Nana réalisé.
Non, mais entre deux bouses, il aime rappeler aux gens qu'il est un bon acteur. Mm-hmm. Dans le film, il le prouve. Franchement, il mérite d'être nominé aux Oscars. Il joue très bien. Et dans un rôle dramatique.
Laisse-les nommer aux Razzies comme il le fait.
Non, 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 là, il ne sera pas nominé aux Razzies. Là, il a des chances d'être mérité aux Oscars. Okay. D'être nommé aux Oscars, oui, il joue très bien. C'est un rôle dramatique. Il joue un bijoutier escroc. En New York, je pense que dans les années 2011 ou 2012, comme ça. Voilà, donc on le suit, le personnage. C'est le genre de personnage qu'on adore détester. Tu vois, il est accro au pari de jeu. Voilà, c'est un escroc. Voilà. Non, il joue trop bien. Il joue trop bien. Il porte le film. Et c'est très bien réalisé.
Mm-hmm.
Très bien écrit également. Et il y a l'une des meilleures fins de 2019 dans ce film. Anxiogène, ça te tient en haleine pendant 15 minutes, tu peux pas respirer.
Ok.
Non mais c'est un film que je conseille, un très bon film.
D'accord.
Mm-hmm. D'accord. Alors, Céline, numéro 7.
Alors, numéro 7, j'ai Rocketman.
Ok.
Qui me donne des airs de Bohemian Rhapsody. Alors, c'est ce qui me permet de plonger dans l'histoire d'un chanteur extravagant, mais dans tous les sens du terme. Elton John a été un artiste. Flamboyant, bien avant la vague aujourd'hui des Vogue, des Pose, c'était lui quoi, c'était lui l'artiste anglais, mm-hmm. dans toute son espérance.
Mm-hmm.
Et moi je l'ai connu assez tard parce que c'était surtout le Candle in the Wind qui m'a fait découvrir, le son à la mort de Diana. Donc découvrir un peu la jeunesse de cet artiste, tout ce qu'il a représenté, mm-hmm. pour, aussi pour la musique que pour la société, parce qu'il a été le premier. Son coming out, à se marier avec des hommes et tout. Donc, confirmation aussi que Taron Egerton tient quelque chose. C'est pas juste un acteur qui est là, mm-hmm. Kingsman et tout. Il a un vrai talent.
Mm-hmm.
Pareil, on lui donne un scénario, il a réussi. Et c'est un film aussi qui, dont la bande-son. Voilà,
ah oui,
qui
sûr, les films.
A rappelé que. Parce que je pense que c'est Elton John, hein. C'est Elton John qui chante.
Ah oui.
Mm-hmm. Avec Taron Egerton. Un peu, mais c'est surtout lui qui chante.
Ah, tu penses qu'il chante Taron Egerton quand même?
Non, non.
Je pense qu'il chante. Ah oui, il chante pas.
Il chante pas.
Mais c'est surtout Elton, hein.
Mm-hmm.
Ouais. Donc, c'était une jolie surprise et voilà, c'est mon numéro 7 de l'année, Rocketman.
D'accord. Femme.
Numéro 7, j'ai mis Atlantique. Je l'ai enfin vu.
De moi, Tito.
Ouais. J'ai eu un sentiment bizarre quand je le regardais, je sais pas c'est quoi, mais j'ai quand même adoré.
Mm-hmm.
Je trouve qu'il est très... j'ai vu il y a pas longtemps Yao,
okay.
que c'est triste de dire, hein, mais que je trouve très mauvais.
Ça m'a pas attiré non plus.
Je sais pas, en fait, il est bon, je pense sur le papier c'est bon et tout, mais quand on le regarde, il y a quelque chose qui est faux. Qui n'est pas sénégalais, on a l'impression que ça a été écrit par un Français qui ne connaît rien du Sénégal et c'est son imaginaire de ce qu'il imagine qui se passe en Afrique. Et du coup, ça sonne faux.
Ouais. Oui, c'est très
cliché. Voilà.
Porte-cas.
Voilà, exactement.
Imagerie d'Épinal.
C'est pas pour les Sénégalais. Merci. En fait, voilà.
Qui ont une certaine image exotique.
Et là, c'était exactement tout ça, il n'y avait pas ces défauts-là. J'ai trouvé que c'était limite trop sénégalais, des fois.
Mmh.
Et voilà, j'ai trouvé ça super bien. J'ai trouvé l'actrice principale, la Mama Sané, excellente. Elle est excellente. J'y crois à fond, quoi. J'y crois à fond. Les autres aussi, hein, c'est des gens avec qui elle joue.
Juste l'inspecteur.
Non, l'inspecteur, je n'ai pas trop aimé.
Ah, moi, j'ai
bien aimé son jeu et tout. J'ai pas trop aimé son rôle.
Ah, d'accord.
Le rôle dans le film.
Oui. Moi, je parlais du jeu.
Ouais. Non, le jeu, oui, il était bon, il était bon, mais je sais pas, on aurait pu lui faire plus, je sais pas comment dire, j'ai l'impression qu'il a un second rôle.
Tu vois ce que je veux dire? Rôle.
Ouais, Mais pourtant, il est nominé. Il n'est pas nominé au.
Il est présélectionné au César.
Il est présélectionné.
C'est un film franco-sénégalais.
Mais on présélectionne même.
Donc on peut l'espérer dans les.
Oui, oui. En fait, ça dépend.
Si tu joues au César.
Justement, en fait, au César, il se concentre sur des films français. Mm-hmm. Si c'est un film français, peu importe les acteurs.
Mm-hmm. Okay. Soit, voilà, et Atlantique, c'est un film français, non?
C'est une coproduction franco-sénégalais.
Mais il est français, donc. Enfin, je veux dire.
Oui, ça peut être nominé. Meilleur film français.
Tu peux y aller?
Tu penses, hein?
Mm-hmm. Ouais. Ça peut être nominé.
Croisons les doigts, alors.
Donc voilà, c'est mon numéro 7. Je le trouve génial. Ça m'a transporté. J'étais très fière de le voir. Et voilà.
D'accord. Alors moi, mon numéro 7, c'est The Irishman. Mm-hmm. Oh, je suis assez triste de le voir si bas de mon top. Oui, parce que j'ai adoré beaucoup. J'ai aimé beaucoup de films cette année. Mm-hmm. Voilà, mais j'ai adoré également The Irishman.
Okay. Franchement,
et bizarrement, en fait, c'est un film que je n'attendais pas du tout. Je m'en foutais un peu, en fait. Parce que les figures de les Jimmy Hoffa, d'autres là, le personnage qui interprète De Niro, ne m'intéressaient pas du tout, tu vois. Parce que, en fait, moi, les figures de gangsters, ça ne me fascine pas. Mm-hmm. C'est plutôt la déconstruction, tu vois. Mm-hmm. Plutôt montrer une autre image qu'on voit souvent d'eux. C'est ça qui m'intéresse. Mm-hmm. Et il s'est avéré, c'est un peu De Niro ce qu'il fait. Mm-hmm. Voilà. Parce que dans le film-là, en fait, il s'agit de un peu de leur rédemption, de leur requiem. Mm-hmm. Voilà, de ces gangsters-là. Mm-hmm. Voilà, donc en fait, le film brasse ou regroupe toutes les thématiques propres ou... propres au film de,
ouais.
Voilà, de Martin Scorsese. Mm-hmm. Voilà, donc il y a la politique, il y a les...
La hiérarchie.
La hiérarchie, la foi, la famille, tu vois. Bref, il y a du tout. Il y a du tout. Donc, c'est bien fait, c'est bien compté, c'est bien mené. La réalisation est superbe, tu vois. Les dernières 1h30 sont excellentes, tu vois. Bon, même, je dirais, tout le film est génial, tu vois. Mais surtout les dernières 1h30, franchement, c'est excellent. Et ça se conclut tellement bien. C'est pas le dernier film de Scorsese, mais je pense que Scorsese aurait aimé que ça soit son dernier film. Mm-hmm. Voilà, parce que
bon,
ça
il est fatigué,
a tout d'un film. Oui, il est vieux, il n'est pas loin de 80 ans. Voilà. Voilà. Mais je pense qu'il aurait aimé que ça soit son dernier film. Mm-hmm. Il y a tout d'un film testamentaire. Mm-hmm. Voilà, donc numéro 7. Alors, Sénat, ton numéro 6.
Alors, mon numéro 6, j'ai tout simplement le deuxième volet de Creed.
Ah ouais.
Creed. Ah, d'accord.
Parce que c'était quand même quelque chose de particulier de revoir fils de Creed contre le fils de Drago. Et ça a permis aussi d'aller un peu en profondeur sur ce jeune boxeur-là qui à la fois se bat pour lui, mais aussi se bat pour un héritage qui est lourd à porter. Et je pense que dans le film, dans le deuxième, ils sont quand même parvenus à approfondir un peu cet aspect-là. Et c'est rare de voir un film de boxe de nos jours. Malheureusement, c'est un genre qui s'est un peu taré. Et donc Creed est quand même parvenu pour moi à réveiller un peu ses passions pour le film de boxe que j'avais depuis Rocky, que j'ai aussi un peu découvert avec Raging Bull, Million Dollar Baby, et voilà. J'ai vécu fait le premier, et là le deuxième aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Mm-hmm. Oui, en numéro 6, ouais, j'ai Creed 2.
Ok, j'avais beaucoup aimé le premier. Bon, femme, hein.
Donc moi, c'est les films de boxe, ouais, pas du tout. À part Million Dollar Baby, peut-être parce que c'était une fille, et Clint Eastwood, je sais pas.
Ouais.
Bref. Donc, numéro 6, moi j'ai mis Once Upon a Time in Hollywood. Ça, par contre, je ne pouvais pas ne pas mettre le Tarantino
super.
De l'année.
Voilà, tant qu'il est présent, moi ça me va.
Mais aussi, la dernière fois, tu sais, j'ai dit que je ne l'avais pas trop aimé, machin et tout. Je pense que je sais pourquoi. Okay. C'est parce que je l'ai vu en version française.
Ah.
Je l'ai vu en français parce que je l'ai téléchargé, c'était trop tard, c'était déjà en français. Mm-hmm. Et il fallait que je le voie, je sais plus pourquoi, il fallait que je le voie à dalle. Mm-hmm. Pour le podcast.
Ah d'accord.
Donc je l'ai regardé en français. Mais c'était pour ça, pour le top. Parce qu'on devait faire le top.
C'est vrai.
Et donc j'ai regardé et ouais, j'ai pas adoré comme j'adore toujours d'habitude des films de Tarantino. C'est pas plus mal, peut-être que je grandis aussi cinématographiquement.
Ouais.
C'était au début Tarantino. Mm-hmm. Mais voilà, c'est la performance du duo Brad Pitt-Leonardo DiCaprio, magnifique, magnifique.
C'est sûr.
Et puis même l'histoire de revenir dans ces années, ça parle du cinéma. Et c'est le, tu vois, c'est la boucle qui se boucle, quoi. Mm-hmm. C'est Tarantino.
Carrément.
Numéro 6 quand même, c'est loin. Mais bon.
Si, mais au moins c'est dans ton top.
Voilà.
C'est pas dans le top de Céline. Alors moi, mon numéro 6, c'est Marriage Story, de Noah Baumbach.
Ouais.
Voilà, un film que j'ai adoré, tu vois. En fait, c'est un grand film sur le divorce d'aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà, donc on sait que ce sont les divorces de ses parents. Mm-hmm. Il avait inspiré son film Les Belles Comment C'est Pas. Mais pour ce film, Marriage Story, c'est son propre divorce qui l'a inspiré ça, tu vois. Donc c'est assez touchant. on sent que Noah Baumbach essaie de saisir ce moment, en fait, insaisissable un peu, où l'amour disparaît, tu vois. Mm-hmm. On a toujours l'habitude de voir dans les films, on nous montre toujours comment l'amour est entre deux personnes qui se rencontrent et tombent amoureux et tout. Mais on nous montre rarement comment l'amour disparaît, parce que mm-hmm. l'amour des fois aussi, ça disparaît.
Mais ça n'intéresse personne à
c'est,
ce moment-là.
C'est ça. Et c'est pas forcément la faute de l'un ou de l'autre. Franchement, des fois, c'est juste que...
C'est ça.
On passe du nous à je directement. On ne sait même plus à quel moment. Mm-hmm. Voilà, donc ça, moi, je pense qu'il a su captiver ce moment-là. Et ça parle également des difficultés d'un couple qui évolue, qui change, des besoins de s'écouter, des besoins d'évoluer, des besoins également, voilà. D'être à l'écoute des besoins de l'autre. Mm-hmm. Voilà, donc j'ai trouvé le film fort, très bien mis en scène. Il y a un côté théâtral que j'ai bien aimé, très bien écrit. Franchement, moi, c'est le script qui m'a le plus marqué cette année. Franchement, j'ai adoré. Et très bien joué également. Scarlett Johansson et Adam Driver. Ouais. Voilà. Ils étaient géniaux. Voilà, très bon film. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est Nan, numéro 5.
My Beautiful Boy.
My Beautiful Boy.
Timothée Chalamet et Steve Carell.
J'ai pas aimé.
C'est la relation père-fils.
Oui.
Un fils accro, de la substance, et un père qui tente tant bien que mal de dialoguer avec lui, d'essayer de l'accompagner, d'essayer de le protéger. Ça, c'est, comme je dis, c'est difficile quand on est, pour les garçons de parler avec leur père. Sur bien des points, surtout à un moment, on se dit qu'on est assez grand pour le faire, et que plus on est grand, moins on a des facilités à le faire. Et encore, quand on souffre, comme le fait le fils, parce qu'il est sous dépendance. Et qu'il essaie de dialoguer, même quand il n'y a pas de dialoguer, c'est pas facile. Moi, c'est un film sur lequel je me suis beaucoup vu, sans pour autant se faire de dépendance, mais dans l'aspect dialogue avec le paternel. On a tellement envie de lui dire des choses, on a tellement envie de le confier nos peurs, de le confier un peu les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on fait, que ce soit en bien ou en mal. Mm-hmm. Mais il y a cette crainte, il y a
beaucoup de pression sur les hommes.
C'est oui. Et il y a aussi d'ailleurs aussi le fait que voilà, on nous met la pression en tant qu'homme fort. Et même pour le père aussi, il y a cette pression aussi de inconsciente où si je suis le père, je dois être capable d'écouter ce que le fils dit. Mais c'est pas facile aussi d'admettre déjà que son fils a un problème, qu'on ne peut pas l'aider, qu'on ne peut que l'aider à s'aider lui-même. Mm-hmm. Moi, donc, c'était vraiment un sujet qui m'a beaucoup touché, qui m'a pas fait. C'est mon numéro 5 de l'année.
Mmh. Très bien. Pas mal.
Moi, numéro 5, j'ai mis Ad Astra. Brad Pitt encore. Hein.
Oui.
C'était la
de James Gray.
Je suis tellement fan.
Jolie bande-son.
De James Gray.
Ouais. D'habitude, tous les films un peu dans l'espace, les trucs comme ça, là, j'aime pas trop. Le dernier que j'ai vu, c'était Gravity. Et franchement, j'ai détesté. Je sais. Mais je sais toujours pas pourquoi. Mais j'ai détesté, c'est-à-dire qu'à la fin du film, j'étais fâchée. C'est-à-dire que j'étais là, je savais que je ne devais pas regarder ça.
Faudrait que tu le revoies.
Je pense que tu vas le voir. Peut-être que j'étais dans un mauvais mood.
Ça avait perdu comme qui en 2013, mais en film.
Clavier Slave.
Il n'y a pas d'histoire là-dedans.
Si, il y a une histoire.
Il y a une histoire.
Eh, mais même en Gravity, il y a une histoire quand même.
Elle descend au même moment.
En fait, ça parle du dé. Elle a perdu sa fille.
Oui, mais moi, j'ai vu. Aucun moment j'ai vu la métaphore. Aucun moment. Aucun.
Elle a perdu sa fille. En fait, ça parle de lâcher prise et tout cela. Mm-hmm. Voilà. D'accepter, en fait. Elle était un peu dans le déni.
Oui, mais il faut que la métaphore soit intéressante. Mais bref, on parle de Ad Astra.
Vas-y.
Ad Astra, donc oui, ouais, j'ai adoré. J'ai adoré aimer un film qui se passe dans cet univers-là, parce que d'habitude je les déteste tous, et je me suis dit ça doit être un bon film parce que j'aime. Brad Pitt est génial, c'est anxiogène un petit peu, et de toute façon dans l'espace c'est toujours un peu anxiogène parce que ils sont coincés dans voilà, et puis il y a toute une histoire. Enfin, j'aime beaucoup,
c'est un petit peu long.
Je trouve ça un petit peu long, il y a des petits trucs un petit peu voilà, toute cette histoire justement de... Moi, j'aime pas trop ça. Je trouve que c'est très souvent un motif. Dans surtout, il y a toujours cette histoire du père, comme voilà, c'est dans la lignée de Star Wars, quoi, et dans plein de films comme ça. Et ça m'a un petit peu énervé. Mais sinon, tout le reste, j'ai beaucoup aimé. Ouais, Ad Astra.
Okay. Moi, je pense en fait, ce film, en fait, c'est un peu une suite au dernier film de James Gray, Velocity aussi.
J'ai pas vu celui-là.
Je pense, en fait, c'est totalement différent.
Ouais, ouais.
Mais lorsque tu regardes Velocity aussi, tu retrouves ça ici. Mm-hmm. En fait, il y avait ce rapport père-fils dans le premier qu'on retrouve ici. Un peu comme si le fils là-bas, il a grandi et c'est Brad Pitt.
Ok, voilà. D'accord.
Parce que dans Velocity aussi, il y avait ce père-là qui... En fait, qui fuyait un peu sa
famille.
Voilà, pas sa, sa responsabilité aussi pour poursuivre quelque chose.
Mm-hmm.
Voilà, il était obsédé par un voyage et tout. Voilà, donc c'est un peu, il avait laissé sa famille pour ça. Il s'était concentré sur elle. Il s'est perdu là-bas. Mais un peu comme si même il vient le chercher.
Ok, d'accord. Voilà,
donc je pense qu'il y a une continuité un peu. Je le citais aussi, j'ai adoré ce film.
Ok. Voilà. Et Ad Astra, non, pas trop.
Si, j'ai bien aimé. En fait, si c'était en top 20, il y figurerait, mais pas dans mon top 10.
D'accord.
Voilà. Alors, moi, numéro 5, c'est J'ai perdu mon corps.
Ah,
film d'animation. Ah, j'ai adoré.
J'ai hésité, je ne savais pas si on voulait
mettre les
animations. J'ai adoré, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, j'ai adoré ce film, j'ai adoré. Mais un film d'animation de l'année.
Très bonne bande son.
Voilà. En fait, il y a des... Esthétiquement, il y a beaucoup de choses qui se dégagent, tu vois. Il y a des partis pris, il y a des...
Être captivé par une main sans être fétichiste. C'est ça que Palmer a fait le film. Là, tu...
Être captivé par?
Par une main sans être fétichiste. C'est-à-dire que là, tu regardes la main...
Moi, ça va
justement, en fait, à... déjà, il y a le choix du titre. J'ai perdu mon corps. On n'a pas dit j'ai perdu ma main, mais mon corps. Donc, ça veut dire qu'on suit la main. La main essaie de retrouver son corps, tu vois, donc c'est tellement bien pensé, c'est touchant. C'est drôle, c'est bien pensé. En fait, voilà, et également, on suit cette main en train de se déambuler dans Paris. Voilà, la vraie Paris, tu vois, la vraie Paris, quoi, pas la Paris des tours à faire sale et tout ça, voilà, bien sale comme on aime. Voilà, bon, j'ai bien aimé ça. Donc, j'ai adoré ce film, le message que ça lance.
Mm-hmm.
Un peu comme si, en fait, c'est un appel à prendre sa vie en main,
mm-hmm.
tu vois, à se pardonner soi-même,
mm-hmm.
tu vois. Et j'ai adoré. Franchement, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Voilà. Donc, Sedina, numéro 4.
Number 4. The Favorite.
C'est Favorite. Ah ouais. C'est dans mon top 2018.
Mais 2019. C'est ce que j'allais dire. Moi, je voulais le mettre et je me suis dit, ah, c'est dans 2019.
Comme ça, il l'a rappelé, c'est il est sorti
en France.
En 2019, en France. Et je l'ai suivi en 2019 aussi. Parce que je me rappelle, je l'ai suivi juste avant les Oscars.
Mm-hmm.
Parce que franchement, les Oscars, moi, ça m'incite quand même. Dès que je vois je tiens à les regarder et je les suis.
Mm-hmm.
Parce que, en plus, que je suis fan des films sur les reines d'Angleterre. Parce qu'elles sont particulières.
Oui,
L'Angleterre a un don avec ses reines. Elles sont toutes particulières. Donc, surtout une que je ne connaissais pas. Et je me rappelle, j'avais dit à Saint-Lapôtre que c'est quand même la reine d'Angleterre. C'est avec elle que la reine a perdu son pouvoir et que c'est passé aux mains du Premier ministre.
Ah ouais?
C'est à partir d'elle que Dan... Que
mais c'est une galère, cette dame.
Oui, non, c'est une galère totale.
Elle est horrible.
C'est horrible. Après elle, en fait, c'est héritier. Il n'y a plus d'héritier direct. Donc, l'héritier direct venait d'Allemagne. Et le gouvernement a dit, non, c'est pas possible. On ne peut pas laisser la branche d'Allemagne être roi. Il faut qu'on demande des pouvoirs au chef du trésor.
Mm-hmm.
Et c'est le chef du trésor de l'époque qui est devenu Premier ministre. Ses pouvoirs ont commencé et petit à petit au 18e siècle, 19e siècle, la reine a perdu le roi a perdu pouvoir.
Okay.
Donc, avec cette reine-là, particulière, plein de dérangements, plein de tics de toc, plein de questionnements. Et c'est, en même temps, c'est même pas elle, c'est deux. D'abord, la favorite. La favorite principale. Et la jeune qui vient aux dents longues, là, qui n'a pas été touchée. Qui est, elle aussi, c'est incisive, mais de manière plus insidieuse, quoi. Et donc, on a un trio, rarement on a un trio de femmes aussi excellentes.
Délicieux.
Rachel Weisz, donc c'est le retour quand même. Hein. On avait oublié à quel point elle est une excellente actrice. Emma Stone qui commence à les enchaîner les bons films. Et Olivia Colman, vétérane, j'ai envie de dire, du cinéma britannique, dont c'est la consécration, elle a gagné l'Oscar l'année dernière pour ça.
Mm-hmm.
Et elle aussi, elle s'est pris dans ce rôle de cette reine aux réactions folles, aux réactions brusques. Au penchant assez particulier, même pour l'époque, et qui finalement montre à la fin du film que c'est elle qui décide, même si ils ne sont pas venus la manipuler, ils ont voulu la manipuler tout au long du film. À la fin, c'est elle qui décide, c'est elle la reine, quoi. Que personne ne l'oublie.
Mm-hmm.
Pour moi, c'était vraiment un film tourné aussi de manière très, très particulière.
C'est l'Antimos
que je ne connaissais pas.
Ah, j'adore.
Que j'ai découvert. Il avait fait The Lobster. C'est lui qui a fait The Lobster.
Il a fait The Lobster.
Oui, il est très particulier. Il a un cinéma très. Il a un cinéma très particulier. C'est quelqu'un que j'ai découvert.
Il a fait d'autres films là. Comment Tenin, mais ça date un peu.
Oui, mais surtout The Lobster et ça.
Il a fait The Lobster.
Donc, franchement, ça a été une découverte.
Mise à mort du cerf volant.
Oui, ah, oui. Ah, c'est lui.
C'est lui.
Il est génial. Il est bien. Donc, The Favorite, numéro 4 pour moi. C'est...
Okay. Moi, c'était le numéro 2 de mon top de 2018. L'année dernière. Ouais. Alors, femme.
C'est, on a dit numéro 4, c'est ça? C'est oui. Parasite. Parasite, pareil.
Ah bah oui, moi aussi c'est mon numéro 4.
Ah cool. Bon, bah... Deux en un.
Ouais, deux en un.
Bah oui, génial. Hein. Je m'attendais, moi les films asiatiques, j'ai l'a priori toujours que ça va être lent, sur l'honneur. Ils sont toujours très des sujets pas trop drôles, quoi. Et donc,
là, ils ont des films trolls.
Ouais, mais moi, tous les films asiatiques que j'ai vus ou qu'on m'a conseillé, c'est des films genre ultra sérieux, lents, avec des gars qui vont se suicider ou toujours des trucs des vieux en général, en noir et blanc et tout, des samouraïs. Donc
ça c'est pas les japonais.
Oui, japonais aussi. Oui, oui.
Les japonais.
Et mais bon voilà, Parasite c'était une bonne découverte. Je m'attendais pas à ça et ouais, c'était.
Ouais. J'ai adoré hyper maîtrisé.
La réal, ouais.
Rien n'est resté au hasard, tout est calculé au millimètre. Il y a tellement de cinéma dedans. Voilà, et ça mêle tragédie, comédie, thriller.
Et c'est aussi une satire sociale parce que.
Exactement.
C'est voilà.
La lutte des classes. La lutte des classes.
En même temps, voilà, c'est
bien pensé, bien calculé. Franchement, moi, c'est un film qui m'a impressionné. Même si, quand même, la première fois que je l'ai vu. J'en ai parlé à des amis, je me suis dit, le film est hyper bien, mais mon problème avec le film, c'est que c'est trop excellent, c'est trop parfait, tout est calculé, tout est millimétré.
Ah oui, il n'y a pas un grain de folie.
Voilà, ouais. mais en fait, ce n'est pas un défaut, parce qu'en fait, après mes amis, ils m'ont dit, oui, toi, de toute façon, on ne sait jamais ce que tu veux. Quand ce n'est pas parfait, tu dis, c'est pas parfait, quand ce n'est pas parfait, tu n'es pas content non plus. Non, mais c'est un bon film, voilà.
Non, oui, peut-être, c'est un bon film.
Voilà, la fin est un peu trop évidente, je trouve, mais sinon, c'est excellent. C'est un très bon film.
C'est un bon film.
Alors, c'est voilà. Ton numéro 3.
Numéro 3, Oscar de mes films 2018, de remis en 2019.
Green Book.
Green Book. J'ai envie, c'est un énième film qu'on a souvent présenté à tort comme Mrs. Daisy et son chauffeur inversé. C'est bien plus que ça. C'est quand même c'est une histoire d'amitié improbable entre un chauffeur. Rital, donc pour l'époque des années 60, macho, raciste et tout. Et un chanteur, enfin un artiste noir américain, excellent, renommé, charismatique, parlant comme un noble africain perdu dans la jungle de New York, et qui demande un chauffeur expérimenté pour l'aider à circuler dans le sud américain. Il circule comment? Grâce à un manuel vert qui liste en fait. Moi, je ne l'ai pas compris, je n'ai pas compris tout de suite. Mais il liste les hôtels dans lesquels lui, il peut séjourner.
On accepte les Noirs.
C'est quand même d'incongru à notre époque. Mm-hmm. Et donc, on les voit cheminer, on les voit se confronter. On voit quand même, particulièrement, c'est ce qui est particulier, que des deux, c'est le Noir qui le peut cultiver, c'est lui qui... Il jette un
méchant
qui dit va le ramasser. Oui, il est là. Non, c'est.
Il est
évolué.
Et moi, j'ai l'impression de découvrir Mahershala Ali. Que moi, j'ai connu en 2005, 2006, 2007.
Ah ouais?
Dans la série Les 4400. C'est là où j'ai découvert pour la première fois.
J'ai regardé Les 4400, mais je m'en rappelle plus.
C'est lui, c'est le père de. C'est l'un des pères de famille qui aussi avait découvert des pouvoirs du lendemain.
Ok. C'est vieux quand même.
Oui, c'est parce que il faisait pas des 4400 qui avaient été capturés et ramenés genre 70 ans plus tard. Lui, on l'a capturé à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, donc j'ai découvert.
J'ai très envie de regarder les 4400.
Non, c'est. Oui, un jour, 4400 personnes réapparaissent.
Oui.
Et ils avaient été capturés à des époques différentes. Donc je digresse un peu. Donc Mahershala Ali, j'ai découvert à l'époque. Surtout parce qu'elle avait un nom extrêmement long. Mahershala, la base. Allez,
ouais, non, bizarre. Moi, toujours pas à le temps.
Et après, je l'ai revu, Moonlight.
Ouais.
Même avant Moonlight, House of Cards. Oui, House of Cards. Il apparaît dans House of Cards. Il apparaît dans Hunger Games 3. Et moi, dans ma tête, jamais pour moi, il n'est pas musulman. Je dis là, juste un nom musulman, beaucoup de noms américains.
Okay.
Et le voir après avancer et puis être consacré pour Moonlight comme étant premier acteur musulman consacré. Dommage qu'on ait à le préciser, ça, mais voilà, c'est ce qu'il est. Et pour moi, c'est quelque chose qui, voilà, soudain, il commence vraiment. Il est déjà à son deuxième Oscar, il a déjà deux Oscars. C'est pas rien.
En trois ans.
Et voilà, il sent gêne dans le rôle. Quoi. Il, il cabotine, il a des postures, il fait preuve de classe, et pourtant il a des failles, parce qu'il a un mode de vie assez particulier pour l'époque, qu'il a du mal à cacher, et que bizarrement l'autre parvient quand même à comprendre d'une certaine façon, en tout cas il parvient à tolérer, et ça, c'est quelque part ça les rapproche. Et même si, comme ça il l'a rappelé, je me rappelle à l'époque, ça il l'a rappelé, ben, l'histoire en question n'est peut-être pas aussi réelle qu'on le croit ou qu'on l'espère, mais voilà. C'est une belle histoire malgré tout. Moi, je retiens ça, c'est une belle histoire, c'est quelque chose qui me marque, et qui montre que, voilà, c'est, même dans cette époque-là, il y en a tant d'autres, hein, j'imagine, mais voilà. C'est quelque chose qui... L'interprétation était magnifique pour moi.
Ok.
C'est mon film de...
Vraiment.
Numéro 3, j'ai mis Joker.
Joker.
Ouais. Parce que bah, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année, quand même. Il me manquait quelque chose un petit peu depuis le truc, mais voilà, Joaquin Phoenix, il est génial dedans. Voilà, c'est, on en a tellement parlé que... Bon, voilà.
Ouais, on en a parlé dans l'épisode 2. Voilà. Alors moi, numéro 3, c'est Le Traître, de Marco Bellocchio.
Okay.
Je ne sais pas si vous en avez
entendu parler. Oui, j'ai vu la bonne annonce.
Voilà, c'est génial, c'est génial. C'est, en fait, ça parle de l'Italie durant les 20 dernières années. Ça parle, en fait, ça raconte 20 ans d'Italie, de l'histoire de l'Italie, à travers la figure d'un gangster exilé, tu vois, mais que la police soit attrapée et qui sera obligé de dénoncer la mafia qui, la mafia italienne.
Okay.
Voilà, donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, c'est une fresque de 3 heures, c'est magnifique, c'est baroque, tu vois, c'est classique pour moi, mais c'est très bien écrit. Bien pensé. En fait, ils ont réussi à captiver les moments les plus intéressants pendant ces 20 ans-là. Parce qu'il y a eu des ellipses dans le scénario.
Oui.
Voilà, donc des ellipses, c'est venu de manière fluide. Ils ont saisi des bons moments dont il fallait parler et tout.
Mm-hmm.
Voilà, donc ils l'ont saisi et ils l'ont bien exploité. Voilà, donc moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu, que j'ai adoré. C'est assez dommage qu'il n'ait rien obtenu à Cannes. Franchement, parce que Bellocchio, il est assez vieux. Il doit avoir l'âge de Scorsese, 80 ans, quelque chose comme ça. Et il n'a jamais rien gagné à Cannes. Franchement, c'est dommage.
Juste parce qu'il est vieux.
Oui, mais c'est son meilleur film. C'est son meilleur film. Le film est bien.
Ouais, bah,
franchement, oui, c'est ça. Pas parce qu'il est vieux. Non, non. Parce que le film est génial. Le film est génial. Franchement, j'aurais bien aimé qu'il gagne quelque chose. Et moi, je me dis, l'acteur également, Favino, l'acteur principal, il est excellent. Je me dis si l'autre là, comment il s'appelle? Antonio Banderas, s'il n'avait pas gagné le prix d'interprétation masculine à Cannes, c'est Favino qui l'aurait eu.
Okay.
Franchement, il est bien, il est excellent. Voilà. Donc, très bonne fresque pour ceux qui aiment les films de gangster, ou plutôt la déconstruction de l'image du gangster au cinéma. Je vous conseille Le Traître de Bellocchio. Alors, Célina, ton numéro 2.
Joker.
Ok, c'était pas bien loin.
Oui.
Joker. J'avais peur de beaucoup de choses, de l'interprétation du film en tant que tel. Et même si le film, j'ai trouvé qu'il avait quand même des moments longs, mais c'est vers la fin qu'on comprend tout ce qu'on a vu. Non, mais je veux dire, il y a un moment où il y a plus quand même, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent, la majeure partie des choses se jouent dans sa tête plutôt que dans la réalité. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, voilà, tout le film est...
On nous a peut-être piégé
depuis le début, enfin pas depuis le début, pas forcément depuis le début, mais une bonne partie des situations qu'il vit sont imaginées. Et il est porté par Joaquin Phoenix surtout.
Ouais.
Avec quand même une résonance par rapport à notre époque où les comportements sociaux comme le sien sont marginalisés. Et donc il devient inconsciemment une figure du contre-courant actuel que nous vivons, où pour peu qu'on soit marginal, on devient un peu le symbole. Et à la fin, c'est qu'il devient le symbole du chaos. Comme si le chaos pouvait servir de réponse à tout. Ça sera son cheval de bataille toute sa vie. Et voilà. Le film parvient bien à nous montrer un peu la longue descente aux enfers. Enfin, la descente aux enfers. Je pense que pour moi, il était déjà, puisqu'il n'arrivait pas encore à le reconnaître. Et quand enfin il parvient à l'admettre, qu'il se met à rire tout seul à la fin du film, là, sur le plateau, là, je dis, mais il est arrivé, quoi. Comme on dit en Wolof, on dit Ekman. Voilà, c'est vraiment, c'était un bijou, c'est une belle surprise.
D'accord, pas moi.
Alors moi, numéro 3, à couteau tiré. Numéro 2, pardon.
Nice.
Numéro 2, à couteau tiré.
Ah oui, j'ai bien aimé.
Ouais, j'ai bien aimé aussi. Moi, j'aime bien les trucs comme ça en huis clos, un petit peu, c'est pas carrément un huis clos, mais un petit peu.
Ouais, Agatha Christie.
Ouais, Agatha Christie. Donc déjà, l'écriture, on sait que bah, c'est bon. Et puis même, le scénario, comment ils l'ont adapté.
Non, c'est juste inspiré. C'est pas une œuvre d'Agatha Christie, c'est un scénario original. Voilà. Mais en fait, C'est un peu comme un livre d'Agatha Christie, en fait.
Il y a un livre d'Agatha Christie qui s'appelle comme ça.
À coup de trait.
Ouais, je crois. Non, c'est pas tiré d'un livre d'Agatha Christie.
Non, c'est pas tiré d'un livre d'Agatha Christie. Ça y ressemble, en fait.
Ouais, ouais, non, je pensais...
Disons, c'est un peu des
inspirations. Je pensais que c'était tiré d'un livre d'Agatha Christie. Mais bref, dans tous les cas, il est très bien. J'aime bien ce truc où ils sont tous, voilà, ensemble. C'est dramatique, mais c'est très, très drôle aussi. Ouais. Cette famille est, voilà, très drôle. Daniel Craig, dans un registre... je l'ai beaucoup préféré là que James Bond.
OK.
Et il y avait qui? Chris Evans.
Ouais,
Anna d'Armas, ils sont tous vachement drôles.
Il y a un bon casting, en fait.
Ouais. J'aime bien. Et moi, j'adore les huis clos, c'est mon
style. Tony Collette aussi.
Mm-hmm.
Ouais.
Ils sont tous, tous bons. Après, je connais pas bien tous les noms des acteurs et tout, mais j'ai bien aimé. Je connaissais pas ce réalisateur. C'est cool, ouais. C'est un très, c'est très bien. Cool film. Ouais.
C'est lui qui a fait le dernier Star Wars.
Ah, wow,
Star Wars 8.
Okay. Qui est sorti là, en décembre, là?
Non, celui, c'est d'avant. Le 9. D'avant, okay. Oui, de l'année dernière.
Ok, d'accord.
De 2018.
Ouais.
L'année dernière, maintenant, c'est 2019.
Ouais.
Voilà, alors moi, numéro 2, Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino. Bah oui, on savait que Tarantino était capable de violence, d'ingéniosité pour le scénario, de nostalgie aussi. Et d'ailleurs, ce que lui reprochait des tracteurs, de toujours reprendre des choses, de recycler, voilà, des choses qui se faisaient avant. Mais en fait, pour moi, Once Upon a Time, c'est un film sur la mélancolie. La mélancolie d'une époque révolue, voilà, d'un art, d'une certaine manière de faire le cinéma. Voilà, donc en fait, il utilise ce cinéma-là pour corriger des choses qui sont faites dans la vie réelle, pour montrer un peu comme si le cinéma pouvait faire des choses que la vie n'était pas capable de faire, tu vois. Et il utilise ce cinéma également pour corriger quelque chose au fond même de son cinéma à lui, tu vois. Par exemple, lors d'un échange des dialogues entre hippies, il parle de violence, tu vois. On se rend compte que Tarantino aborde son rapport à la violence lui-même, tu vois. Un peu pour dire que cette violence n'est jamais gratuite, c'est souvent au service de quelque chose de plus grand, tu vois. Voilà, il ne tire pas sur des gens juste par plaisir et tout, c'est souvent pour défendre quelque chose, c'est souvent pour montrer quelque chose, ou voilà, pour faire vivre quelque chose.
Créer une réaction.
Exactement. Donc, pour moi, c'est un très bon film, tu vois. Un classique, je suis sûr que ce film va être culte.
Je pense aussi.
Ouais, franchement.
Avec toutes les scènes reprises, les vraies scènes de film.
Clairement. Un film jouissif, voilà. Pour moi, c'est un film que j'ai adoré. Ça rend hommage également au cinéma. Ça parle du cinéma, voilà, de la puissance du cinéma. Voilà, pas seulement hollywoodien, mais du grand cinéma. Pourquoi on l'aime, voilà. Donc moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai adoré. Et que je suis allé revoir au cinéma. Voilà, ce qui est rare. Je suis allé revoir, que j'ai beaucoup aimé. Et ça dure 3 heures aussi. Non, pas trop. Qu'est-ce que ça fait 3 heures?
2h15,
ouais, c'est un peu long. Mais j'ai adoré, j'adore ce film. Alors, numéro 1, c'est Elina.
C'est une apothéose. C'est la conclusion de 10 ans d'un univers maîtrisé.
Okay.
Un record battu, qu'on croit, qu'on pense n'a jamais battu. C'est un spectacle total. C'est des frissons à chaque fois qu'on regarde. Avengers Endgame. Là, en fait, il faut avoir suivi.
Depuis, moi, je suis pas d'accord.
Iron Man.
Non, c'est le fan en lui qui parle.
Oui, depuis Iron Man. Là, on n'est plus dans la qualité. Non. Là, on est dans le film lui-même. Dans le film qui est sorti. Mm-hmm. Et qui, comme je dis, c'est le point final.
Ouais.
Donc, à une histoire démarrée en 2007. Donc on se dit, ça marche déjà Iron Man, on va continuer. Et que là, on se rend compte qu'ils sont en train de faire du jongle sur ça, et puis on fait ça. Et à chaque fois, il n'y a quasiment pas de raté. Pour me dire qu'il n'y a aucun raté. Très peu de raté dans les MCU. Et qu'au fur et à mesure, ça monte en puissance. On a Avengers premier, puis on a Thor, ceci, Black Panther. Et Endgame, qu'on ne pensait pas faire mieux que... moi, je ne pense pas qu'il ferait mieux qu'Infinity War. Il parlait à faire mieux qu'Infinity War. Alors oui, il y a des raccourcis, oui, c'est pas...
Non, moi, j'ai pas vu. Hein.
C'est de la science-fiction.
Ah ouais.
Mais c'est...
Non,
c'est,
moi, j'ai bien aimé.
C'est un spectacle total. C'est un moment où vraiment, on est au cinéma. Quand il dit Avengers Assemble, ça, c'est les frissons, ça, c'est...
Ah oui.
On crie, quoi. Moi, je me rappelle plus la dernière fois où j'ai crié dans le cinéma.
Ah oui.
J'ai crié, j'ai dit... Oh,
moi, pendant ma séance, les gens...
Les gens crient, mais... Oui. Et parce que dans la tête de tout le monde, c'est tant de films qui, dont la conclusion arrive là. Donc il y en a qui vont dans ces derniers films qui disparaissent, certains vont mourir, certains vont quitter l'histoire carrément. Et donc le film permet de conclure cette trace-là, de conclure cet univers-là qui aura carrément démolit la concurrence. DC n'a jamais pu faire aucun film qui s'approche de MCU. Et donc aussi au niveau économique, financier, 2019 les a vus battre le record d'Avatar qui datait de quoi, 2009 ou 2010.
2009.
Donc rien que ça aussi, après on pourra juger toujours la qualité, c'est pas parce que c'est un film à beaucoup de vues que c'est un bon film. Mais voilà, c'est quelque chose qui reste dans l'histoire du cinéma. Quoi. Donc 2019 pour moi c'est Endgame.
Okay.
C'est l'Endgame.
D'accord. Compréhensible quand même. Voilà. Ouais. C'est pas dans mon top, mais j'ai beaucoup aimé le film. Femme.
Bon, moi numéro 1, hein, Marriage Story.
Ok.
C'est,
ouais,
c'est mon
ouais.
film préféré. Comme je disais tout à l'heure, là, pour moi, c'est difficile de faire un beau film quand le sujet est quelque chose de tellement banal de la vie de tous les jours. Mm-hmm. Atlantique aussi fait un petit peu ça. Je m'en suis rendu compte à la fin du film. Je me suis dit, mais elle, avec tous les réalisateurs sénégalais, ce qu'on imagine, on va faire des films au Sénégal, elle est allée dans un petit quartier, prendre des petits gens,
en et bon prendre
son... Voilà. Et on voit même pas tellement Dakar partout. C'est juste une petite histoire. Sur... Voilà.
Mm-hmm.
Et là aussi, voilà, c'est ce que je trouve génial, que le film il m'a transporté comme ça, alors qu'on raconte juste l'histoire d'un couple qui divorce. Quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais ils jouent bien. C'est des personnages forts avec leurs contradictions. Mm-hmm. Et voilà, un peu tout ce que tu as dit tout à l'heure. On raconte pas les... On fait tous la fête du mariage, mais on ne fait pas la fête du divorce.
Exactement.
Donc, voilà, c'est voilà, moi je suis une jeune mariée, bah, ça fait 5 ans maintenant, donc, mais ça m'a parlé, je pense que c'est à mon âge que ça, ma génération entre 25 et 35 ans, c'est à nous que ça doit parler le plus, mmh, parce qu'on a peur de ça, que...
Ouais, mais même les plus sont plus âgés, la quarantaine, cinquantaine.
Je pense que tous ceux qui ont été en couple ou veulent être en couple, pour se retrouver dans ce film, parce que comme Farah l'a dit, c'est... Moi, je sais pas vous le dire, mais en voir la balance, on voit pas comment deux personnes qui clairement ont autant de sentiments l'un pour l'autre, parviennent à se rendre compte qu'il n'y a plus rien, quoi. Et c'est un peu même triste à dire. Ça me fait penser à ce film de Frédéric Becbédé il y a quelques années qui tirait une série qui disait l'amour dure 3 ans. Ans.
Mm-hmm. Ah oui.
J'ai lu le livre, mais j'ai pas vu le film.
Oui, ils ont fait le film. Mm-hmm. Voilà, c'est quoi comme concept? Ça veut dire quoi que... C'est pas parce qu'on s'aime qu'on est force destinée à rester ensemble toute notre vie. Qu'est-ce que ça en dit sur les couples qui sont mariés depuis 40, 50 ans? Ça dit que quoi, à un moment, la flamme s'éteint, c'est la routine qui s'installe, c'est l'habitude. Ce sont des concepts dangereux quand même. Mais voilà, je pense que c'est un film qui les acteurs sont très justes. Quoi. Adam Driver, criminellement sous-côté, très juste. Scarlett Johansson, trop longtemps t'as casté, très juste.
Non, oui, c'est ça, je suis très d'accord. Hein. Je trouve qu'ils sont magistraux tous les deux. On sent vraiment leurs émotions. J'étais dedans, quoi. Quand j'ai regardé, j'étais vraiment dedans.
Très bon film.
J'aime bien ça, ouais. C'est un très beau film.
Alors, moi, mon numéro 1, c'est un film français.
Mmh.
Ouais. Portrait de la jeune fille en feu.
Ah, de Céline Sciamma. J'ai entendu parler, mais j'ai pas vu.
Céline Sciamma, elle a
fait quoi? Regarde tous les films, celui-là.
Elle a fait Girlhood.
Girlhood, ouais. Elle a fait Girlhood. Donc, moi, c'est un film qui m'a le plus impressionné cette année. C'est un film que j'ai... En fait, c'est un film très beau. J'ai trouvé que c'est le plus beau film de l'année. C'est le film le plus impressionnant. La force de conviction dans le propos, sa beauté du film, à commencer par les parties plus esthétiques de Céline Sciamma. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Comment il montre la naissance de cette histoire d'amour entre Adèle Haenel et l'autre, là, Naomi Merlant. C'est magnifique. C'est... tellement intelligent, tout est dans le regard, l'effrontement. En fait, l'émotion jaillit dans le petit truc, tu vois. C'est tes regards. Par exemple, bon, je raconte un peu le qui. C'est une jeune peintre, femme, jouée par Naomi Merlant, qui a été payée pour venir peindre une jeune femme, une autre jeune femme. C'était au 18e siècle.
Exactement. Ouais.
Voilà, donc, voilà, pour venir peindre une autre jeune femme qui refuse de se faire peindre. Tu vois, donc elle se fait passer pour une dame de compagnie. Tu vois, bien que pour la peindre
l'observer.
Par le mois. Exactement, l'observer, voir ses traits pour après la nuit venir la peindre. Voilà, donc là, petit à petit. En fait, elle, bon, ce qu'elle va dire, c'est que sa mère veut la marier à un Italien fortuné. Voilà,
et doit y envoyer une photo, quoi.
Envoyer la photo, voilà. C'est pour cela que la fille refuse de se faire peindre.
Parce qu'elle ne veut pas qu'on envoie son image.
Merci.
C'est génial, je vois, comme
voilà, c'est ça le concept. Mais c'est, bon, ça a eu le prix du meilleur scénario à Cannes. C'est vrai, le scénario est abouti et tout. Mais pour moi, le film aurait mérité plus. Pourquoi pas la Palme d'Or cette année? C'est vrai, Parasite est excellent. Voilà. Mais pour moi, en fait, cette année, ils ont raté la chance de remettre la Palme à une femme. Ils l'ont pas fait depuis Jan Campion. Et ça adapte depuis les pianos là. Tu vois, donc ça adapte. Donc moi, pour moi, cette année, c'était une chance. Le film est excellent. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, carrément un chef-d'œuvre. Voilà, il y a plusieurs réflexions sur, sur l'art, à plusieurs échelons. En même temps, l'art, de cette manière de montrer en fait l'art, comment il peut entretenir la flamme entre deux personnes, tu vois. Et il y a plein de thématiques. C'est un film féministe, tu vois. C'est vrai, c'est en 18e siècle. C'est au 18e siècle. Mais quand même, ça n'empêche pas de parler de, du choix du célibat, de, du choix de, d'aimer qui on veut. Voilà, du féminisme et tout. Il y a plein de thématiques, il y a plein de mises en abîme, il y a plein de métaphores. Un excellent film. Franchement, ça m'a impressionné. Et le duo, Adèle Hanenel et Naomi Merlan, je pense qu'ils vont se lever au panthéon des meilleures histoires d'amour au cinéma. Pour moi, personnellement, je trouve. Franchement, c'est un film excellent. Franchement, que j'aimerais que vous voyez un jour.
Oui, non, moi, je cinéma français,
là,
je suis très...
Voilà.
Très pour, moi, en tout cas.
Voilà, il faut le voir. Alors, on est arrivé à la fin de nos tops. Je vais demander, je vais vous demander à chacun de lire vos tops. On va commencer par femme.
Alors, moi, donc numéro 10, Alita Battle Angel. Numéro 9, Green Book. Numéro 8, Glass. Numéro 7, Atlantique. Numéro 6, Once Upon a Time in Hollywood. Numéro 5, Ad Astra. Numéro 4, Parasite. Numéro 3, Joker. Numéro 2, A Couteau Tiré. Et numéro 1, Marriage Story.
Ok, c'est bien.
Alors, moi, numéro 10, Us. Numéro 9, Le Cas Richard Jewell. Numéro 8, The Farewell. Numéro 7, Rocketman. Numéro 6, j'avais Creed 2, le deuxième Creed. Numéro 5, My Beautiful Boy. Numéro 4, The Favorite. Numéro 3, Green Book. Numéro 2, Joker. Et le premier, Avengers Endgame.
Ok, moi, numéro 10, An Elephant Sitting Still. Numéro 9, Ex Aequo, Les Misérables et The Farewell. Numéro 8, Uncut Gems. Numéro 7, The Irishman. Numéro 6, Marriage Story. Numéro 5, J'ai perdu mon corps. Numéro 4, Parasite. Numéro 3, Le Traître. Numéro 2, Once Upon a Time in Hollywood. Et numéro 1, Portrait de la jeune fille en feu.
C'est qui te fait 11 films quand même.
Ouais, je triche un peu. Mais franchement, je voulais pas. Je voulais forcément mettre The Farewell. Franchement, c'est un film qui m'a beaucoup marqué.
Mention spéciale, on a des mentions spéciales.
Oui, donc là, on va parler des mentions spéciales, des films que vous avez beaucoup aimés. Et qui vont peut-être, si vous avez fait un top 15, qui seront numéro 11, 12, 13, quelque chose comme ça. Voilà, rapidement. Donc je commence.
Oui, vas-y, commence. Oui.
Alors, moi, parmi les mentions spéciales, je vais dire Booksmart, qui est pour moi la meilleure comédie de cette année. Franchement, il est génial. Très fun, très drôle. Voilà, très intéressant. Ensuite, on a Les Oiseaux de Passage, de Ciro Guerra, un film colombien. Très intéressant aussi, tu vois, ceux de l'héritage et tout. C'est bien mis en scène, bien écrit et tout. Alors, voilà, ces deux-là. Et également, j'ai beaucoup aimé Le Mans 66 de James Mangold. Voilà, c'est...
Walk the Line, James Mangold.
Oui. Il est intéressant comme réalisateur. En fait, il ne fait jamais le même film. Il saute de genre en genre. C'est plutôt intéressant. Bon, il a fait aussi Wolverine deux fois aussi, ça c'est vrai. Alors...
Alors, c'est... moi, je. Mention spéciale. En fait, j'ai envie de citer tous les films que mes deux camarades ont cités que je n'ai pas pu voir, Parasite. Mais pour ne pas sortir de ceux qu'on a, qui sont aussi qui ont déjà été là, Midsommar. J'ai envie aussi de donner aussi bien Ad Astra. Le Mansion 6.
Ah oui, Ad Astra, dans le Mansion spéciale.
Le Mansion 6.
C'est sûrement mon numéro 11. Le j'ai Manson, bien aimé.
Ouais, le Mansion 6, Vice. Okay. L'ascension de Dick Cheney.
J'ai pas bien aimé.
Tu n'as pas aimé? Ah bon?
Je me suis même endormi.
Sorry to bother you.
Ok.
Il y en a énormément, mais bon, juste pour sortir un peu de ce qu'on a déjà été cité.
D'accord.
Synonyme, voilà.
Moi, je pensais à Douleur et Gloire de Almodovar.
Ah oui, j'ai bien aimé également.
Ouais. On peut quand même dire qu'on n'en a pas parlé, mais c'est le retour de Banderas. Hein.
Ouais, mais.
Banderas, c'est nommé partout.
Moi, je l'aime pas là-bas.
Qui Banderas.
Moi, j'ai l'habitude de Banderas. Oh, tu sais.
Banderas, il a la chance.
Il est bien.
Ah oui, il est bien. Oui, mais oh, ça va pas.
Il est vieux.
C'est genre, wow.
Tu l'as vu dans Picasso?
Mais qu'est-ce qui s'est
passé? C'est pas mon mec, ça.
Non, j'ai pas vu Picasso.
Tu te disais, c'est pas mon mec, ça.
Oui, je me suis dit, mais c'est pas Antonio Banderas. Moi, je me rappelle de lui dans Zorro.
Ouais, mais justement, les gens vieillissent.
Lui, Pama, Clooney, Richard Gere.
Oui, mais eux, ça va.
Ah, ça va.
Oui, mais je veux dire, ils ont pas des rôles. Là, il a vraiment un rôle de vieux.
Oui, mais en même temps, il joue un peu, en fait, l'autre, là. Comment il s'appelle?
Pedro Almodovar.
Pedro Almodovar, ouais, voilà. C'est ça.
Il ressemble à Pedro Almodovar dans le film, d'ailleurs. Mais j'adore Pedro Almodovar. J'adore.
Non, il est bien.
Si j'avais pu faire une école de cinéma, je serais allé dans la sienne. Elle est géniale. Et elle est pas chère.
Il est bien.
Ouais.
J'ai bien aimé Douleur et Gloire également.
Ouais, sauf qui
Anthony Mandler.
Voilà. et The Irishman.
Il y a le film avec Sir Ian McKellen et Helen Mirren.
J'ai pas vu.
C'est tellement rare de voir aussi deux légendes comme ça dans le cinéma. Donc moi, quand il sort quelque part, j'ai toujours juste envie de jeter un coup d'œil.
Alors, quel sera notre film de cette année?
Aïe, aïe, aïe. Ça sera pas
il faudrait qu'on ait un acrociné d'or quand même.
Moi, si je dis Endgame, vous allez crier ou...
Non, ça n'a pas été Portrait de la jeune fille en feu, mon numéro 1, parce que vous ne l'avez pas vu.
Non,
Once Upon a Time, il n'y a que toi qui l'aimes, c'est de n'en aime pas.
Joker, je pense.
Joker, oui, j'aime bien. C'est dans... c'est quelle classe, non?
Deux.
Toi?
Trois.
C'est pas dans mon top.
Dans quatre, non, c'est quatre.
What, Marie Story?
Non, mais il a pas...
Ah oui, c'est de n'en a pas vu.
Ouais, non, moi, c'est mon 3.
On
a presque aucun film en commun, on n'a pas de film en commun tous les trois.
Donc,
il faut choisir.
Donc, il y a Joker. Je pense que ce serait Joker. C'est pas dans mon top, mais j'aime bien.
Le groupe, en tout cas, accro, est... voterait pour Joker.
Eh bien, attends.
Sans local.
Bref, Joker. Donc, on choisit Joker.
Ouais, moi, je trouve que c'est bien.
Ça fait un peu mal, mais quand même.
Oui, voilà.
J'ai bien aimé, mais quand même.
Demande
tous les films qu'il y a eu en cette année.
Ouais,
oui.
C'est. Bah, après, c'est mainstream, quoi.
Marie Story.
C'est niche, c'est vraiment faux.
Marie Story.
Oui. Moi, je peux kiffer.
C'est un film de cœur.
Je sais que j'ai kiffé, mais voilà, c'est pas. Si je devais retenir 2019.
C'est ça le problème.
Ce qui est bien avec Joker, c'est que c'est un film mainstream, un blockbuster et tout. Mais qu'en même temps, il ressemble à un film d'auteur. Et il a eu un budget de film d'auteur.
Et ça a gagné le Lion d'Or quand même.
Quand même. Ouais, et Joaquin Phoenix est génial dedans.
Il y a le plébiscite
critique.
Il y a des limites.
Il y a des limites. Oui. Il n'est pas parfait. Mais voilà. Pour moi, il symbolise bien l'année.
Voilà.
Il n'est ni parfait ni mauvais. Il symbolise bien l'année.
Voilà.
On a des pics. On a des bas.
Donc, notre acrociné d'or 2019,
c'est Joker.
C'est Joker de Todd Phillips.
Voilà.
Est-ce que Todd Phillips est venu pour prendre son prix? C'est moi voir. Non, il n'est pas là. Il est simplement en train de faire campagne pour les Oscars. C'est dommage. C'est dommage. Alors, rapidement, on va, après notre top, nous allons parler des... Je vais vous demander votre acteur de l'année et actrice de l'année. Donc, Céline, acteur de l'année.
Acteur de l'année.
Pas besoin de réfléchir rapidement.
Phoenix.
Okay. Joaquin Phoenix. Femme, hein?
Acteur homme.
Acteur homme.
Adam Driver.
Ok, pour moi, c'est Brad Pitt.
Ah ouais?
C'est deux films.
Oui.
Deux films.
C'est vrai.
Et What's Up on Time?
Ouais,
acteur de l'année, quoi. Pas meilleure performance de l'année.
Oui, c'est l'acteur que tu retiens, d'accord.
Voilà, l'acteur que je retiens.
Il est dans Star Wars aussi, Adam Driver.
Oui, il est dans Star Wars. Je n'ai pas le suivi. Alors, actrice de l'année, Sidna.
Actrice de l'année. Ben. Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson.
Oui.
Ok.
Moi aussi.
Pas moi. Bah, moi aussi, parce que je l'ai vu dans deux films.
Ouais, parce qu'elle était bien dans. Elle m'a bluffé dans.
Elle est bien dans Marie Story, elle est bien dans Jojo Rabbit. J'ai pas parlé de Jojo. Jojo Rabbit, j'ai. Voilà. Voilà, c'est pas mal, mais j'ai quelques problèmes avec le film. Voilà, mais elle était bien, Scarlett Johansson. Ouais. Elle était bien. Alors, révélation de l'année.
Révélation, Baron Roman Davis de Jojo Rabbit.
Ok.
C'est facile de révélation avec les gosses, c'est quand même facile ça.
Et il est jeune, il joue bien.
Il joue bien, il est juste.
Femme, hein.
Moi je sais pas.
Peut-être que tu ne connaissais pas en 2018.
Ok. Bah moi.
Anna de Armas.
Anna de Armas.
Je connaissais pas.
Ah d'accord. Donc, ok. Elle était dans Blade Runner 2049.
Ah j'ai pas vu ça.
Ah oui, c'est elle la répétante.
Oui.
C'est elle.
Le robot.
Oui.
Oui, c'est elle. Ah, ouais. C'est elle. Alors moi, ma révélation de cette année, c'est Matty Jo.
Ah oui. Ouais. Ah on pouvait dire tout et n'importe
quoi. Oui, on pouvait dire tout.
Moi, ça, c'est... Moi c'est pas ma salle alors.
À un moment, c'est une électrice.
Ouais.
Ouais.
Non, vraiment.
Moi, c'est Matty Jo. Franchement, elle a une vision. Et c'est tout ce qu'on demande aux réalisateurs, hein, d'avoir une vision propre.
Mm-hmm.
Voilà. J'ai bien aimé Atlantique. Voilà, je trouve qu'il y a des choses moins réussies. Et d'autres choses aussi, également très réussies dans le film. Franchement, il y a plus de réussite que de rater aussi. Mm-hmm. Voilà, mais Matty Diop, une révélation. Ouais. Et je suis pressé de voir ce qu'il va faire après.
Mm-hmm. Elle a fait des trucs avant.
Oui,
court-métrage, ouais. Voilà. Et documentaire. Non, court-métrage, c'est bon. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle n'a pas fait de documentaire.
Ou je sais pas quoi. Et
ok. C'est intéressant. En tout cas, Matty Diop, mm-hmm. on est pressé de voir ce que tu vas faire après.
Voilà.
Et bonne chance aux autres.
Et elle va faire quelque chose après. C'est
certainement,
sûr.
Certainement. Là, elle vient de commencer. Elle vient de commencer. Alors, on est arrivé à la fin de cet épisode spécial de film 2019.
Il nous reste juste un grand, on va pas annoncer la date, mais juste un grand événement. C'est l'Oscar. C'est juste le grand événement critique.
Le prochain.
Mm-hmm. C'est le prochain, mais c'est, après ça, c'est...
Non, on va continuer après.
Et oui, également, le grand événement de la saison.
Ah oui.
Il va clôturer la saison.
Il y a les BAFTA, mais les BAFTA, c'est pas important. Tout le monde s'en fout.
Il y a même les César, les gens s'en foutent un peu aussi.
Oui,
mais c'est vraiment les Oscars.
Oui, mais César, quand même, c'est le cinéma de France. Et également, cette année, mon meilleur film français, c'est. Mon meilleur film de l'année, c'est.
Ah oui, non, non, si, on va suivre les César, parce qu'il y a une fausse chance que Atlantique soit pré-publicité.
Il y a Atlantique, il y a Le Portrait de la jeune fille en feu,
il y a Les Misérables. Donc, cette année, les César sont juste très colorés.
Exactement.
Donc, à suivre aussi, on en reparlera après, évidemment, en février.
Coloré
et féminin, c'est qui est assez rare.
Voilà. Donc, guys, on vous dit juste qu'on fera un épisode spécial sur le top de décennie.
Ah oui, il y a ça aussi, le top de décennie.
Voilà.
Ça va par contre,
compliqué,
ça va faire très mal.
On sait que vous attendez, donc on va le faire.
On va faire un épisode entre les deux pour qu'on ait le temps de,
de préparer. Oui, on verra bien. Mais encore, on va le faire, c'est promis.
Je suis allé faire un.
Allez, donc on se donne rendez-vous. À très bientôt.
À très bientôt. Je suis allé sur.